toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotta.
Ils et elles sont invisibles et pourtant indispensables au bon fonctionnement d'une entreprise ou d'une société. Mal considérés, voire complètement ignorés, ces personnels peuvent être exploités, mais quand trop c'est trop, la lutte collective s'impose. C'est ce que montre le film Petite Main, qui sort mercredi prochain, Journée internationale du travail. Bonjour Nessim Chikawi.
Bonjour.
J'imagine que la date de sortie n'a pas été choisie au hasard.
Alors pas choisie au hasard, mais avec un peu de chance, parce que on devait sortir le 20 mars pour le printemps du cinéma. Et finalement, le film n'était pas encore prêt. On a fini mi-janvier. Et quand on a vu que le 1er mai était un mercredi, on s'est dit ça, c'est un signe, c'est un symbole, ça a du sens, on fonce.
Petite Main est votre deuxième long métrage et il suit la grève de femmes de chambre d'un palace parisien. Beaucoup d'origine africaine, enquête entre autres de meilleures conditions de travail. À l'affiche de notre cinéma aujourd'hui, on parlera encore lutte collective avec l'alarme sonnée par les professionnels de la culture et de grands noms du cinéma en Argentine après l'élection de Javier Milei. Lutte individuelle, celle d'un jeune soldat israélien qui prend des chemins de traverse, c'est Le Déserteur de Danny Rosenberg. Et puis on parlera cheveux aussi, cheveux crépus, coupe afro avec la documentariste Rachel Quarteng.
Et généralement en fait on se faisait coiffer, les gens de l'immeuble savaient qu'on allait sortir avec une nouvelle coiffure. Donc autant dire que c'était pas forcément plaisant et je pense pas facile pour ma maman.
Mais tout d'abord, place à la lutte joyeuse des femmes de chambre d'un palace.
Bienvenue au royaume des larbins.
Bon, je vous présente Eva. Vous lui montrez les règles et le fonctionnement de la maison.
Je sais faire mon métier, hein. Je faisais 25 chambres à l'Ibis.
Tu viens m'aider, Kim Kardashian. Tu grouilles, j'ai pas que ça à faire.
Tu te recoiffes.
Ça, c'est attitude Ibis. Ça, c'est attitude palace, c'est classe.
T'es attitude palace, toi ?
Nessim Chikawi, dans Petite Main, on suit Eva, une jeune femme qui a travaillé dans un Ibis et va découvrir les codes du ménage dans un palace. Ce personnage d'Eva fait le lien entre deux grands mouvements sociaux qui ont fait avancer les droits des personnels dans les hôtels. Il y a eu la grève de 22 mois, je crois, à l'Ibis Batignolles, et puis celle au parc Hayat qui a duré 87 jours.
C'est ça. Mais il y en avait d'autres. Il y a eu ici à Marseille, sur le Prado, Novotel du Prado. Il y a eu à Suffren. Donc il y a eu beaucoup. En fait, c'est venu d'Espagne d'abord. Et c'est arrivé en France avec ces hôtels.
Et vous avez choisi de placer vos caméras dans un palace parce que quoi, c'est plus cinématographique ?
C'est plus cinématographique. Et puis c'était important et nécessaire pour moi de montrer vraiment le gouffre qu'il peut y avoir entre ces deux classes sociales, c'est-à-dire ces femmes de chambre qui, sans elles, il n'y aurait pas de chambre à 9008 la nuit, mais elles touchent même pas 10% du prix de la nuit. Leur salaire, généralement, aussi entre 800 et 1000 euros par mois. Et donc, voilà, je trouvais ça intéressant de montrer que c'est grâce à ces femmes-là que ce luxe est accessible à certaines classes sociales.
Et peut-être aussi que les actionnaires des groupes hôteliers ont dividendes, non ?
Non, en plus, c'est vrai que les palaces, donc le parc Hayat est un palace, donc il sous-traite, mais la grande majorité des palaces ne sous-traitent pas. Et par exemple, nous, on a tourné au Bristol et le Bristol internalise leurs femmes de chambre. Donc c'est un bon point. En plus, je pense que, on a tourné là-bas, donc les employés nous disaient que c'était très heureux là-bas. Mais le palace, c'était aussi important de montrer vraiment aussi ce gouffre, parce que une des références, c'était un peu Titanic, c'était quand Jack, là, DiCaprio, arrive au premier là, avec toute cette luxuriance. Mais quand il va, lui, on voit les sous-sols, on voit que c'est autre chose dans le même bateau. Et en fait, dans l'hôtel, c'est aussi pareil. Quand j'ai visité les palaces, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va voir cette chambre luxuriante avec ses cadres, ses lampes sublimes. Et les sous-sols, c'est vraiment ce qu'on voit dans le film, avec des luminaires dégueulasses,
des néons.
Et voilà, donc je trouvais ça le parallèle super frappant, important de montrer.
Mais on l'a déjà un peu entendu dans la bande-annonce, Nessim Chikawi, vous ne faites pas un documentaire, hein. C'est vraiment un film enlevé, c'est c'est une comédie. Enfin, il y a des répliques comiques, notamment portées par Corinne Maciero. Ouais. On le verra avec son rôle. Et ça, puis, vous teniez à cet aspect comique.
Ouais, déjà, bah, parce que moi, j'ai fait les tuches. Donc, c'est mon ADN, la comédie. Mais aussi parce que c'était pour respecter ces femmes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré Rachel Keke et les autres femmes de chambre...
Rachel Keke, donc, est devenue depuis députée LFI. Ça, et qui a mené le combat à Libis.
À Libis Batignol, avec d'autres femmes, avec Sylvie, Fatima, Tiziri. Donc, c'est pas un biopic sur Rachel, parce que ça serait manquer de respect à toutes celles qui ont mené la lutte. Et oui, la comédie, parce qu'à chaque fois, ce qu'elle me racontait, elle me disait « Mais qu'est-ce qu'on a rigolé ?» Et c'était important de le montrer, ça aussi, de montrer cette lutte joyeuse. Et c'est pour ça qu'elle a été aussi médiatisée, c'est qu'elle a été traitée comme telle.
La lutte sociale, il en est question aussi, je l'annonçais dans le générique, dans le monde du cinéma, en Argentine. Alors le cinéma argentin essaye tant bien que mal de résister à la tronçonneuse de Javier Milei. Le président ultra-libéral a fait du monde de la culture, et en particulier de celui du cinéma, son ennemi dans le cadre de sa bataille culturelle. Bonjour Théo Conscience.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de RFI à Buenos Aires, Théo. C'est notamment au travers de l'INCA, l'Institut National du Cinéma Argentin, que Javier Milei s'en prend à cette industrie.
Oui, l'INCA, c'est un peu le symbole du cinéma argentin. C'est le garant de sa vitalité et de son indépendance. Un peu à la manière du CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée en France, l'organisme a pour mission de promouvoir le cinéma argentin et sa diffusion auprès de tous les publics et cofinance une dizaine de films par an avec un budget total d'environ 11 millions d'euros. Après avoir promis de le fermer pendant sa campagne, Javier Milei a finalement choisi de nommer un nouveau président à la tête de l'Institut, Carlos Pirovano, un économiste dont la première décision a été de licencier 170 employés. Vendredi dernier, des acteurs de l'industrie du cinéma se sont mobilisés devant l'INCA pour exiger sa démission, en l'accusant d'avoir pour unique mission de démanteler l'organisme. Je vous propose d'écouter le documentariste Fermín Rivera.
C'est un économiste, et ce qui a transcendé dans les réunions, c'est qu'il se jacte de
ne pas... Il se vante de ne rien connaître au cinéma et d'être là pour solutionner un problème financier qui en réalité n'existe pas, car l'INCA fonctionne majoritairement avec des fonds indépendants.
L'INCA, en majeure ou menor mesure, tenait indépendance de fonds.
Et alors, est-ce que la fermeture de l'Institut est toujours à l'ordre du jour, Théo ?
Alors même s'il n'est pas officiellement question de fermeture, le nouveau président a lancé, je cite, une refonte de la structure de l'organisation qui ressemble à s'y méprendre à un démantèlement. Depuis plusieurs mois, l'INCA n'accepte aucun nouveau projet de film ou de documentaire et ceux déjà approuvés ont été suspendus. Dans le cadre de sa restructuration, Carlos Pirovano veut fermer 4 des 8 départements que compte l'INCA. Parmi ceux qui sont amenés à disparaître, il y a celui qui s'occupe de la diffusion des œuvres au travers de l'historique cinéma Gaumont, qui appartient à l'Institut, ou de la plateforme en ligne Cinéar, et surtout le département de développement, qui était en charge de sélectionner et de financer les nouveaux projets. Pour Fermín Rivera, fermer ce département revient presque à fermer l'INCA.
La raison d'être de l'Institut National du Cinéma et de l'INCA.
La raison d'être de l'Institut National du Cinéma, qui est inscrite dans la loi depuis des décennies, c'est de soutenir l'industrie et les cinéastes indépendants.
Y a los cineastas independientes.
Et quelles pourraient être les conséquences pour l'industrie du cinéma ?
Eh bien, les conséquences, elles promettent d'être désastreuses. En Argentine, l'industrie audiovisuelle représente 7000 emplois directs, mais fait travailler indirectement plus de 600 000 personnes. Ces derniers mois, plusieurs sociétés de production ont déjà mis la clé sous la porte, et c'est précisément ce que veut Javier Milei, faire taire le cinéma indépendant argentin. Cette croisade a d'ailleurs soulevé une vague de solidarité internationale avec des grands noms du 7e art, comme Francis Ford Coppola ou Alejandro Iñárritu, qui ont appelé à sauver le cinéma argentin.
et ça pleure. Radio, ça fait du soleil.
La reprise de Radio par Lilywood and the Prick sur RFI. Vous êtes bien à l'écoute de tous les cinémas du monde. Je suis en compagnie de Nessim Chikawi, le réalisateur de Petites Mains qui sort en salle en France mercredi prochain. Les Petites Mains, ce sont les femmes de chambre d'un palace parisien. Quand le film commence, un mouvement social est en cours. Eva, c'est Lucie Charles-Alfred, est une intérimaire embauchée pour remplacer une gréviste. Elle fait équipe avec Simone, alias Corinne Maziero, qui lui montre tous les rouages du métier. Il y a quand même, Nessim Chikawi, il y a une hiérarchie, même en bas de l'échelle.
Ouais, tout à fait. Et puis il y a aussi ce côté de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que là, j'ai créé vraiment une équipe, ce qui existe aussi dans certains hôtels, une équipe de femmes de chambre internalisées, donc embauchées directement par l'hôtel. Et l'autre moitié, elle est embauchée par une boîte de sous-traitance. Et en fait, ce que raconte Rachel aussi dans ses interviews, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes droits. C'est-à-dire que les femmes en sous-traitance n'ont pas de plateau repas, elles n'ont pas le droit de manger dans la cafétéria avec les autres employés, elles n'ont pas le droit de prendre le même ascenseur, elles n'ont pas les mêmes produits.
Donc que les autres femmes de ménage.
Voilà, de la même équipe, mais celles qui sont internalisées ont leur uniforme directement fourni par l'hôtel et les produits, tandis que celles qui sont placées par la sous-traitance, elles ramènent parfois leurs produits, parce que leurs produits à la sous-traitance est les moins chers, donc très toxiques, ou parfois il n'y en a pas. Leurs uniformes ne sont pas les mêmes, c'est de la moindre qualité, parce que le but d'une boîte de sous-traitance, c'est faire des économies, et donc elles font de l'économie sur la rentabilité de ces femmes, et en plus leur demandent des cadences infernales.
Par exemple, il y a une anecdote dans le film où la femme, je crois que c'est Eva d'ailleurs, à qui on propose un croissant, mais comme elle est de la boîte de sous-traitance, normalement elle n'a pas le droit de prendre les croissants qui sont en fait des restes du petit déjeuner des clients, non ?
Non, des internes. C'est-à-dire que les internes ont le droit au petit déjeuner, et sauf que celles qui sont employées par la sous-traitance n'ont pas le droit de ça. Et puis en plus, ce que me racontaient les femmes de chambre en sous-traitance, c'est que si on les voit les manger, elles peuvent avoir un blâme ou être licenciées. Donc c'est vraiment, c'est ce genre de choses qui me tenait à cœur de montrer aussi.
Nessim Chikawi, vous avez été éducateur. Mmh. Votre premier long métrage placé, vous l'aviez nourri de votre expérience auprès de jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Pour Petites Mains, donc, on l'a un peu compris, vous êtes allé voir Rachel Keke. Vous l'avez nourri de quoi, donc, ce film ? De ces rencontres-là ou d'une connaissance un peu plus approfondie de ce milieu ?
C'est marrant parce que ce film, au début, je me disais, placé, c'est plus moi, il me ressemble plus. Et en fait, au fur et à mesure des projections, du montage et tout, je me suis dit, mais c'est fou à quel point ce film me touche profondément. Il me touche parce que il y a toujours ce truc de classe sociale, moi, qui me plaît. C'est-à-dire, moi, je viens d'une classe populaire et donc je suis toujours fier de montrer ces personnes. Et du coup, j'ai mis beaucoup de moi, de mes valeurs. Et il y a aussi mes tantes, moi, qui sont tunisiennes, donc qui ont connu ces métiers-là. Ma mère, moi, alors qui est normande, mais qui est une petite main tout de même, qui était aide à la personne, qui était serveuse, vendeuse dans un magasin. Tout ça aussi, ce sont des métiers qui vous fracassent le corps pour des salaires moindres. Et donc voilà, et puis mon père, qui est tunisien aussi, qui est arrivé du bled à 18 ans et qui a fait tous ces métiers harassants, fatigants, et pour à la fin avoir des petites retraites de 700-800 euros. Donc tu dis, c'est ça la vie, c'est bosser jusqu'à... Bon, on repousse encore la date de retraite, mais c'est pas ça la vie en fait. C'est pas travailler jusqu'à pas d'âge et ne pas profiter de cette retraite puisque ton corps est épuisé. Donc non, ce film, j'ai pioché aussi sur la rencontre avec toutes ces femmes, les syndicalistes qui m'ont beaucoup aidé, Tiziri et Claude, qui avaient mené la lutte avec la plupart des mouvements qui ont existé. Et donc et puis j'ai essayé de mettre les anecdotes et ce qu'on m'a raconté, d'être le plus juste possible pour respecter au mieux ces femmes.
Tu te recoiffes.
Quoi ?
Tu te recoiffes, c'est quoi ça ? Ça, c'est attitude ibis. Ça, c'est attitude palace, c'est classe.
T'es attitude palace, toi ?
Je suis pas encore low cost, moi, ok ? Moi, ça, c'est n'importe quoi. Après, c'est moi qui vais me faire engueuler.
Et tu mets pas ta salive sur mes cheveux, hein ?
T'es sérieux ?
Tu fais quoi ?
Chut ! On se débrouille comme on peut, d'accord ? Tu vas là-bas.
Ça me dégoûte. C'est bon?
D'abord tu sonnes, première fois. T'attends 10 secondes.
Service!
Mais allez, bouge, non. bouge.
Putain, c'est grand, hein?
Bon, plus important, c'est ça. Ok? Regarde. Oh, ça, c'est le chrono. T'appuies ici, après t'appuies là, et là, c'est parti.
Ok.
Allez, bouge. Va aérer.
9008 la nuit! 9008!
Et bouge-toi, je te dis!
C'est abusé.
Oh! Tu vas dans la chambre, t'ouvres la fenêtre, tu prends un chiffon, tu fais comme ça sur les meubles, tu fais comme ça sur les plantes.
Les plantes, ça sert à rien.
Oh, dans un palace, il y a tout qui est important. Même ton haleine, c'est important. Allez, vas-y.
Elle me va bien.
Bon, tu viens m'aider, Kim Kardashian. Te mets-toi de l'autre côté. Alors, à trois, on soulève le matelas, ok?
Ouais.
Tu l'as? 1, 2, 3.
Au centre de Petite Main, Nassim Chikawi, il y a un tandem. Eva, la jeune recrue un peu rebelle, et puis Simone, expérimentée, qui cumule deux emplois pour s'en sortir et ne veut pas entendre parler de la grève. Vous renouvelez la formule du duo comique, hein, le Kounban, ouais. L'Auguste.
Ouais, et ce qui est cool, je trouve, moi, dans ce duo, c'est que Simone, donc la plus âgée, apprend, transmet son savoir à Eva. Mais Eva aussi, avec cette jeunesse, comme on voit, très engagée et plus consciente de notre société actuelle, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? T'as qu'un seul corps, tu vas pas te... Enfin, le travail, c'est bien, mais il y a autre chose aussi dans la vie. » Et cette transmission transgénérationnelle, c'est ce qui m'intéressait aussi, quoi. C'était pas mal d'avoir deux visions de la vie différentes, parce que Simone, elle est... comme mes parents ou comme moi, j'ai pu être aussi. C'est le travail, c'est au jour le jour, c'est au quotidien. Et c'est l'aliénation ouais. aussi. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, on travaille, il faut remplir la gamelle et on bosse et on trace et on ne se pose pas de questions sur son corps. Moi, mon père, qui était cuisinier en sous-traitance aussi, bah, une fois, il tombe, il se déchire le ligament. Il dit, mais je peux pas m'arrêter. Il faut que je continue, il faut que je travaille. Et j'aurai tout le temps de me reposer plus tard. Et, sauf que nous, moi, ça m'arrive, je pose un arrêt direct. Hein.
Oui, parce que Simone, en plus, elle est donc internalisée. Donc, elle est embauchée par le palace. Elle n'a pas, a priori, de soucis de précarité. Mais il y a quand même... C'est terrible de voir ça. Elle ne veut pas être en arrêt maladie. En fait, elle a peur d'être en arrêt maladie.
Bah, elle veut pas aussi être en arrêt maladie, parce qu'il y a une réalité, c'est les délais de carence aussi. C'est que perdre 3 jours de salaire pour ces femmes-là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle fait 2 boulots, c'est que ça ne suffit pas. Et 3 jours de salaire en moins, bah, c'est pour beaucoup de gens, pour la majorité des Français, bah, c'est énorme. Et donc, on préfère se tenir et lutter quoi, pour le boulot et pour ne pas perdre cet argent.
Alors, il y a donc Eva et Simone, mais tout autour, il y a beaucoup d'autres personnages et vous les faites exister. Il y a toute une série de femmes, ces femmes de chambre, la plupart originaires d'Afrique.
Ouais.
Et il y a une double invisibilisation.
Exactement. Mais c'est important déjà aussi que ça ne soit pas Corinne. C'est-à-dire, c'est ce que je lui avais dit la première fois que j'ai rencontré Corinne. J'ai dit, c'est pas toi qui mènera la lutte. C'est important que ça soit Safiatou. Parce que c'est Rachel qui m'a inspiré et d'autres femmes. Et parce qu'il y a une réalité, c'est cette réalité administrative. Et c'est pas pareil quand t'as les papiers et t'es en sous-traitance et que tu as ce couperet de la préfecture qui fait que est-ce que tes papiers vont être renouvelés ou pas. Et c'était important, cet enjeu était encore plus fort que celui de Simone, entre guillemets, pour le travail, pour la lutte.
C'est ça, parce que Safiatou, elle aimerait bien, enfin en tout cas elle est en accord avec les principes de la lutte et de la grève,
mais au début, elle
se l'interdit.
Oui,
parce qu'elle a été. Parce qu'elle a peur que ses papiers ne soient pas renouvelés.
Parce que c'est la seule qui soutient le domicile familial. Son mari ne travaille pas, elle a sa mère à la maison, elle a ses enfants. Et c'est une réalité, c'est important aussi de montrer que c'est pas si facile de faire la grève. Hein. Moi, personne n'aime faire la grève. C'est fatigant, tu perds de l'argent, et c'est, encore une fois, c'est épuisant. Et... tout le monde préfère bosser et d'avoir les bonnes conditions pour travailler. Hein. C'est pas un film sur j'ai pas envie de travailler, c'est j'ai envie de travailler, mais donnez-nous les bonnes conditions pour pouvoir le faire. On aime notre travail, on aime notre métier. Et donc voilà, et Safiatou, c'est exactement ce discours que je voulais montrer. C'est ouais, c'est vrai, tout ce que disent les Capverdiennes au début du film, bah elles ont raison, mais sauf que bah, je peux pas en fait. J'ai mes papiers, j'ai mon mari qui est malade, je dois bosser. Sauf qu'il y a un moment dans le film On verra pourquoi. Il faut qu'elle y aille à un moment.
Elle va finir par rejoindre la lutte. Donc, vraiment, donc, c'est un film choral, en fait. Hein,
ouais.
Petite main.
Film choral, je suis vraiment très fier parce que ce qui est venu aussi tardivement, mais pendant la tournée, je me suis rendu compte, et aussi par, par les médias aussi, c'est que ces actrices très talentueuses comme Marissona Condé, Salima Takamate et Maïmouna Gueye, c'est des femmes qu'on connaît, on a déjà vu leur visage, mais on ne connaît pas leur nom. Et voilà, et je suis très fier de ce casting parce que ce sont des grandes actrices et ça fait du bien, je ne sais pas si je fais bien de le dire ou pas, mais d'avoir des rôles pour ces femmes noires qui changent des mamans, des tatas, des grandes sœurs. Je suis fier de montrer, grâce aux femmes de chambre hein, et grâce aux vraies héroïnes de la vraie vie, ça a permis de faire des super rôles pour ces femmes noires parce qu'il y en a très rarement. Par exemple, je sais pas, on va dire ce qui a marché en ce moment, Le règne animal ou Justine Triet,
Anatomie
d'une chute. Et après, c'est normal, chacun écrit avec ce qu'il connaît aussi.
C'est très blanc.
Mais c'est très blanc et c'est dommage parce qu'il y a des. Mais, et voilà, et donc on ne les invite pas, elles ne sont pas médiatisées parce qu'elles ne sont pas reconnues. Et voilà, moi ça me fait chier, mais je suis très fier en tout cas, moi, parce qu'elles sont super.
Et puis, de fait, et dans des rôles pas stéréotypés, où par exemple, leur supérieur hiérarchique, Agnès et Mariama Gueye.
C'est super. Oui, alors elle était en balance avec une autre actrice que j'adore, qui, je ne dirai pas le nom, mais avec qui j'avais déjà bossé. Mais je trouvais ça aussi important que ça soit une femme noire, parce que qu'elle puisse avoir cette réalité aussi. C'est-à-dire que Agnès, bon, on peut dire sa mère peut-être était femme de chambre, et peut-être qu'elle elle est passée par cette histoire de papier.
Elle connaît les gestes, en tout cas. Voilà. C'est leur supérieur.
Elle a fait une école d'hôtellerie. Mais c'est important d'avoir ce contraste. C'est-à-dire, je connais votre sujet, je sais très bien, ça pourrait être sa mère ou ses tantes, mais je peux pas, je suis entre le marteau et l'enclume, et moi je dois faire avancer cette brigade, et voilà, c'est la réalité de la vie, c'est-à-dire que c'est jamais tout blanc ou tout noir, il y a toujours cette zone grise qui est importante.
Alors vous montrez la relation entre Eva et Simone qui va s'approfondir, vous montrez un peu le quotidien de Safia Tou, hein, Marissona Condé, d'Aïssata Maïmouna Gueye, de Violette Salimata Kamate. Et puis il y a le mouvement qui prend de l'ampleur avec notamment une formidable idée, un défilé de mode devant le palace. Dont on écoute la bande-son de Heartstopper, Ini Kamoze.
Come juggle with me, I say every time. Here come the hot stuff.
Nessim Chikawi se défile de mode. Donc les femmes de chambre, je ne sais pas si on peut dire qu'elles se déguisent, mais enfin elles défilent vraiment comme des mannequins devant le palace. Ça, c'est une formidable idée, c'est une idée de cinéma. C'est ce que
non. Elles ont vraiment fait. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est les femmes du parc Hayat Vendôme qui ont eu cette idée. C'est-à-dire que c'était pendant la Fashion Week. Elles se sont dit on va faire notre Fashion Week à nous. Et j'ai trouvé l'idée formidable. Alors, c'est plus beau dans le film parce que c'est cinématographique, c'est avec la musique, c'est avec ses robes et tout. Mais leur idée, l'idée vient de ces femmes-là. Et je leur tire mon chapeau, c'était une super idée.
Et pour réaliser, du coup, c'était la musique. La musique a imposé les mouvements
de
caméra.
Ouais, la musique, c'était vraiment une rêve que j'adorais. C'est de 1914, c'était Prêt-à-porter, Inika Mosé. Et c'était vraiment un morceau que j'adore depuis toujours. Et oui, on voulait vraiment le faire en mode vrai défilé, quoi. C'est-à-dire avec ses belles robes, ses coupes.
Elles sont en boubou. Lucie Charles-Alfred, elle est plutôt en robe antillaise.
Parce qu'elle est vraiment antillaise, Lucie.
C'est pas forcément détectable.
C'est pas détectable. Elle est très claire de peau. Avec les dents carrées. Parce que c'était une vanne d'un pote martiniquais qui l'a reconnue d'en placer. Alors que ça se voit pas, elle était blonde aux yeux bleus. Il dit, mais elle est chez nous, elle. Je dis, mais comment tu sais? Elle me dit, elle a les dents carrées. Donc c'était important pour moi et pour elle aussi de la montrer dans le film qu'elle est antillaise, parce qu'elle est comme moi je suis métisse, donc je suis moitié blanc, moitié tunisien. Et ça se voit pas, et parfois tu peux en souffrir. Tu dis, et t'as besoin de montrer encore plus, alors que je le suis, c'est comme ça, quoi. Et pour le défilé, c'était très cool. Alors, petite anecdote. Ça a été pour moi le jour le plus dur parce que déjà il fallait pas qu'il pleuve, il y avait 150 figurants donc il fallait que je gère, et puis les femmes qui défilent, elles c'était un gros kiff, y a de la musique, on marche, mais sauf qu'il y avait des trucs à respecter, des ordres de machin comme Safietou par exemple ou d'autres, et moi il fallait que je gère tout ça parce qu'elles étaient dans le kiff, et en plus pendant tout ce stress, il se trouve qu'on apprend qu'il y a une manif qui doit débarquer là où on tourne, sur le lieu de tournage. Donc on ne sait pas qui va manifester à ce moment-là, est-ce que ça va être des gens hostiles ou d'autres. Et il se trouve que c'était une manif pour les travailleurs sans papier. Et donc c'était super, parce qu'en plus ils ont cru que nous on faisait partie du cortège. Ils sont venus danser avec nous, on dit mais nous on tourne en fait, c'est un film, on vous soutient mais différemment. Et puis Lucie qui se retrouve sur un char de la manif, partir très loin, en train de danser sur un char. Et voilà, donc c'était
un très bon souvenir.
Super, super souvenir.
Ma chérie, tu peux pas me prêter ton aspirateur s'il te plaît là?
Va voir Eva, j'ai pas fini.
En tout cas, vivement la retraite, toi.
Wallahi. Moi, mais je suis pressée d'aller à la retraite. Je fuis direct à Abidjan.
Qu'est-ce que tu vas faire là-bas?
Je vais ouvrir mon agence patrimoniale.
Avec toutes les applis là qui existent, ton agence là, oublie.
Toi, tu connais rien. Je suis très forte pour placer les gens en couple. Je vais me faire plein d'argent. Tu verras. Tu sais quoi? Je peux te présenter quelqu'un si tu veux.
Tu claques des doigts, il y a 10 Sénégalais qui veulent se marier. Tu penses que je vais payer? Bon, ma chérie, remets ta perruque là, elle tombe.
Merci.
Voilà, là c'est un dialogue entre Violette qui veut ouvrir son agence matrimoniale une fois de retour au pays. Et elle parle à Aïssatou, c'est ça?
Aïssata, non, ouais.
À Aïssata. Donc ces femmes, elles ont des ambitions. Ouais. C'est une entrepreneuse en fait, Violette.
C'est ça. Mais alors, pareil, j'avais passé une matinée avec une femme de chambre d'un hôtel. Et au début, elle était timide et tout. Et puis après, petit à petit, on discute. Et puis, elle me raconte ça. Elle me raconte cette anecdote. Je trouve ça hyper touchant, cette femme qui a un rêve et qui dit, tu verras, je vais me faire plein d'argent. Et en plus, Salimata, avec ses yeux, cette douceur-là. Moi, à chaque fois, ça me tirait les larmes quand j'étais en montage.
Ce scénario, Nessim Chikawi, vous l'avez écrit avec Hélène Filière.
Ouais.
Qui est bien plutôt, on va dire, du cinéma d'auteur. Vous, de la comédie très grand public.
Ouais.
Comment ça s'est fait, votre alliance votre duo gagnant?
Merci. Ça s'était fait sur Placé, déjà, où en fait, on travaillait dans les mêmes bureaux. Et puis, alors moi, je la connaissais, mais de visu, je n'avais pas vu de film d'elle. Et puis, je n'avais jamais vu Mafiosa. Et du coup, voilà, on a deux univers complètement différents. Et sur Placé, je lui fais lire une version. Puis, elle me ramène des idées. Elle me dit, mais tu devrais pousser là, en fait, parce que ça, ça, ça. Et je lui dis, vas-y, tu sais quoi, viens, on écrit ensemble. Elle me dit, vas-y, grave. Et donc voilà, sur Placé. Et puis en fait, quand on m'a proposé le sujet de Petite Main, je lui ai directement proposé, et évidemment qu'elle a dit, elle a dit oui, évidemment, parce que d'ailleurs, son rêve à elle, plus jeune, c'était d'être femme de chambre. Donc c'était assez drôle. Et donc voilà.
Votre référence sur ce film, parce que c'est vraiment Enfin, on peut penser à du Ken Loach, mais souvent Ken Loach c'est quand même âpre, ouais. Même s'il a quand même signé des comédies. On peut penser au Full Monty aussi, même ouais. dans des registres différents. C'est un peu ça. C'est tout quand même fait. Montré, c'est engagé. C'est un film. Ouais. Est-ce que vous diriez que c'est un film engagé, mais
ouais, complètement, complètement, mais différent. Mais comme Placé où c'était un film engagé sur la protection de l'enfance, là, oui, c'est engagé. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que je faisais moi aussi en tant qu'éducateur, c'est que parfois le rire aussi permet de dire, faire passer des messages différemment, et c'est important aussi.
On a un peu parlé du casting, on n'a pas encore dit que le syndicaliste, c'est Kulchen.
Ouais, Bruno Lopez.
C'est incroyable, donc Kulchen, l'autre moitié de NTM.
Ouais.
Comment vous vous êtes retrouvé à lui proposer ce rôle ?
En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, et j'espère que je pourrai continuer à le faire, c'est d'essayer de montrer des gens qu'on ne voit pas forcément partout. Moi, ça ne m'excite pas plus que ça de travailler avec des personnes qui sont dans tous les projets. Je trouve, j'aime bien avoir un peu de singularité. Et du coup, pour ce rôle, je ne voulais pas du cliché de l'acteur blanc, syndicaliste, limite, entre guillemets, j'ai rien contre lui, j'aime beaucoup José Bové, mais je ne voulais pas de José Bové en tant que syndicaliste. Et donc, on cherche avec la directrice de casting, Manon Lebozec. Et on écoute beaucoup de rap. Enfin, pendant le casting, quand on réfléchit, on met de la musique et tout. Et puis on entend un rappeur. On se dit, putain, ce serait drôle un rappeur. Parce qu'il y a quand même du caractère déjà dans le fait d'être rappeur. Généralement, t'as un petit caractère, quoi. Et donc on cherche, on se pose des questions. Et puis à un moment, il y a un morceau d'NTM. On se dit, putain, Kulchen, qu'est-ce qui devient ? Donc je savais qu'il avait une émission, une série télé sur TF1, Syndrome E. Je vois des interviews et tout. Je dis, putain, il a quelque chose, il a une gueule, il a un vécu, il a ses rides là maintenant en plus qui le rendent encore plus. Avec plus d'expérience. Et voilà, donc je lui propose, mais en attendant, parce que lui il fait du poker, donc il était parti 3 semaines à Saint-Martin. Ouais, c'est un joueur professionnel de poker. Et en plus, je trouvais que c'était symboliquement bien, parce que c'était vraiment une sorte de syndicaliste quand il était jeune. C'était le porte-parole de la banlieue, il était sur les plateaux à parler de la jeunesse, de la banlieue. Et je me suis dit, il y avait du sens. Et puis finalement, il accepte. Et je suis très fier de l'avoir parce que je le trouve vraiment bien. Je le trouve doux. Et je trouve pas que ça, c'est pas lui qui mène la lutte. C'est lui qui accompagne ces femmes. Parce que ce sont ces femmes qui sont les héroïnes et qui mènent la lutte. Et lui, il les accompagne avec douceur. Et c'est ce que j'aimais avec lui.
J'imagine que vous leur avez montré le film, ouais. Ces femmes de chambre. Qu'est-ce qu'elles en ont ?
Les vraies femmes de chambre ? Ouais. Déjà, on a fait une avant-première à l'Assemblée nationale avec Rachel. Et qui avait invité Rachel Keke, qui a invité toutes ses anciennes collègues. Et elles sont tellement fières de se dire notre lutte, on est au cinéma. Et c'est important que ce film existe au cinéma, sur le grand écran, avec cette beauté de lumière, avec cette musique, avec ces costumes. C'est beau de montrer ces personnes-là au cinéma. Mais je n'ai rien contre la télé. Mais au cinéma, je trouve qu'il y a un truc un peu grandiose. Donc elles étaient très fières. Il y a aussi les femmes de chambre du Bristol qui l'ont vu, qui ont adoré. Enfin. Se sentent fiers, quoi. Et puis surtout, il y avait la femme de chambre du Bristol qui avait formé les actrices pendant 2 jours et qui était sur le plateau, qui est venue le voir avec ses enfants. Et ils étaient tous en larmes de dire merci de représenter notre maman comme ça. Et voilà, je suis fier de faire ce genre de film pour ça.
Merci beaucoup, Nessim Chikaoui. Petite main, donc vraiment un feel-good movie social qui sort mercredi prochain sur les écrans français.
Je suis enfin.
On parle cheveux crépus et armée buissonnière juste après Malik Djoudi, Vivant.
Des questions sur tout, les doutes qui s'ajoutent. Ce n'était pas le bon moment pour rencontrer ta peau, se jeter à l'eau et pouvoir garder l'élan. Mais aujourd'hui j'ai 20 ans, je suis presque devenu grand. Il était temps de prendre. Je crois que c'est le bon moment pour mélanger nos peaux.
Les sorties cinéma ce mercredi en France, Un lycéen le jour, Chaman à ses heures perdues. C'est Le jeune Chaman, un film qui nous vient de Mongolie, un fait suffisamment rare pour être signalé. Et puis notre conseil de la semaine, Le déserteur, le nouveau long métrage de l'Israélien Danny Rosenberg.
You are the spirit of Jewish people protecting a Jewish land.
Danny Rosenberg s'est inspiré de sa propre expérience. Jeune soldat, hein, en Israël, on le sait, tous les garçons et filles doivent faire leur service militaire à leurs 18 ans. Donc lui, Danny, il avait essayé de déserter quelques heures avant de retourner au front. Pour ce film, il a imaginé la course d'un jeune soldat qui n'est pas retourné à sa caserne, mais qui a rejoint Tel Aviv pour retrouver son amoureuse. Ce film, il l'a écrit et réalisé avant le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre dernier, qui a déclenché une guerre encore en cours à Gaza. Alors, j'ai pu rencontrer Danny Rosenberg lors de son séjour à Paris et je lui ai demandé ce qu'il avait ressenti quand la réalité sous ses yeux avait dépassé la fiction.
Actually, I got in the first time shocked because I saw the film at the 8th of October in the Busan Film Festival. I was there.
J'ai tout d'abord été choqué car le 8 octobre, j'étais en Corée du Sud pour présenter le film au festival de Busan. J'ai atterri dans la nuit du 7 au 8 et je voulais tout de suite repartir en Israël, mais il y avait cette projection.
Reality or fiction just crash into the wall of reality. You know, I saw everything looks real.
Et en voyant le film sur ce grand écran, j'avais l'impression que la fiction s'était écrasée sur le mur de la réalité. C'était irréel, car j'ai tourné là où beaucoup ont été massacrés le 7 octobre.
I couldn't watch it. And I felt back then that maybe this is the end of the film because
je ne pouvais pas regarder le film. Et je me suis dit que c'était la fin de mon long métrage. D'autant plus que quand je suis retourné à Tel Aviv, la ville était déserte, personne dans les rues. Je ne savais plus ce qu'était devenu mon film. Il était censé représenter le futur, mais ce n'était plus le cas du tout.
But actually what's happened is that after 2 weeks, the city just returned.
Mais 2 semaines après, la ville est redevenue vivante. Les restaurants ont rouvert, les gens ont recommencé à faire la fête et on sentait de nouveau cette énergie de vivre que l'on voit dans le film, cette façon d'ignorer la réalité. Parce qu'à 1 heure de Tel Aviv, il y a la guerre. Il y a cet enfer sur terre qui est devenu Gaza. Et là, je me suis dit que c'était ce que j'avais montré dans le film.
Exactly like in the film.
Et donc, le film n'a pas pu sortir en salle en Israël ?
It was supposed to be released.
On devait le sortir en novembre, mais on a dû annuler. Les distributeurs avaient peur de heurter le public avec ce film.
Parce que Shlomi, le héros, fuit la guerre. Lui, il a juste envie d'aimer et de vivre.
Yes, because Shlomi is leaving the war and because
oui, parce que Shlomi en a assez de la guerre. Et puis on pense qu'il a été kidnappé. Maintenant, avec Gaza et les otages, c'est impossible de montrer le film. En plus, le titre hébreu signifie « le soldat qui disparaît ». Et vu le contexte, c'est compliqué. Mais je pense quand même que ce serait bien que les Israéliens voient mon film.
People will see the film now.
Enfin, on termine notre émission avec une série documentaire d'utilité publique disponible sur la plateforme TV5 Monde Plus. Une série intitulée « Cheveux afro, l'histoire d'une couronne innée ». Bonjour Rachel Quarteng.
Bonjour.
Vous réalisez cette série qui parle de la vogue, notamment du cheveu afro naturel et du mouvement nappy. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que vous vous êtes dit voilà, que l'histoire de la chevelure, alors je vais dire la chevelure texturée, comme disent les professionnels.
Maintenant, c'est ce qu'on dit, oui.
Cheveux frisés, crépus. Donc pourquoi vous avez pensé à en faire une série ?
Parce qu'en fait, autour de moi, il y a plein de femmes qui se sont défrisées et qui sont revenues au naturel. Et entre nous, on parlait de nos histoires, on échangeait. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on pose notre histoire, qu'elle existe, en fait. Et il y avait tellement de choses à dire. Parce que en fait, quand on revient au naturel, il faut savoir qu'on a une réflexion où on se demande pourquoi on s'est défrisé, pourquoi on n'a pas voulu garder cette texture avec laquelle on est né. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire. Et voilà, pour moi, c'était important de raconter cette histoire.
Donc le cheveu, c'est tout sauf anecdotique, surtout quand on parle de cheveux crépus. En fait, parce que pendant des générations et des générations de femmes noires qui ont dû se défriser les cheveux, c'est douloureux et puis même c'est toxique, enfin dangereux pour leur santé. Mais pourquoi ? Parce que c'est le cheveu du blanc dominateur qui était la référence ?
C'est ça, il y a l'histoire de l'esclavage derrière. Mais petite, on ne s'en rend pas tout de suite compte. Parce que le défrisage, c'est même quasi culturel. Hein, parce qu'il y a un certain âge où on finit par se défriser. Et, mais voilà, c'est comme un rite de passage. On finit par se défriser parce que coiffer, ça prend du temps pour les parents, ça prend du temps pour soi. Et effectivement, oui, c'est nocif, mais on ne comprend pas tout de suite que c'est nocif. Ça brûle, ça fait mal, mais on a l'habitude de la douleur. Quand on se fait coiffer, petite, on a déjà l'habitude de la douleur. Donc le défrisage, ça fait mal, bon, oui, ok, mais on a l'habitude de la douleur. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment en grandissant, quand on décide d'avoir cette réflexion-là, qu'on comprend que le défrisage, en fait, c'est pas, comme vous avez dit, c'est pas qu'anecdotique, c'est pas anodin. Et bien sûr, ça rentre dans l'histoire qui est l'esclavage, ça en découle.
Et c'est passionnant d'ailleurs, parce qu'on apprend qu'avant d'être réduit, esclavisé, avant d'être rapté, les femmes de différents pays d'Afrique, et puis même, enfin, il n'y avait pas de pays au sens où on l'entend actuellement d'ailleurs, mais la coiffure racontait beaucoup du rang social, c'est ça, de l'origine.
C'est exactement ça. Et arrive le défrisage. Mais quand même, ce qui est beau quand même dans cette histoire, c'est que avec le retour naturel, on est quand même revenu à ses coiffures. On essaye aussi de revendiquer nos cheveux, hein, pas qu'avec le cheveu naturel, mais aussi avec des coiffures, des tresses, comme ça se faisait avant. Donc, on revient un peu au début de notre histoire, quoi.
Il y a un retour vers, par exemple, ces fameuses coiffures extrêmement sophistiquées que l'on voit de ces femmes, donc avant l'esclavage. Par exemple, je crois qu'il y a un exemple avec une femme de forgeron.
C'est ça. Bah, il y a ce genre de coiffures qui reviennent avec les tresses. En fait, on peut faire beaucoup de coiffures avec les tresses. Et il y a ce genre de coiffures qui reviennent ancestrales, travaillées.
Et puis, effectivement, le lissage au prix de la santé. Une de vos intervenantes raconte que quand elle était petite, on lui disait « plus ça brûle, si ça brûle, c'est que c'est bon, c'est
si
ça ?»«
Si ça brûle, c'est que c'est bon. » Non, oui, c'est...
Alors qu'il y avait de la soude dans ces...
C'est ça. Mais en fait, c'est dans l'épisode 1. Non, c'est la voix off qui raconte, qui explique comment on se défrise. Et effectivement, en fait, dans la notice, il y a écrit que c'est 15 minutes. Mais les mamans ou les femmes qui nous défrisaient se disaient que, en fait... Si ça pique, c'est que le défrisage a pris, en fait.
Ouais. Il y avait de la soude.
Il y a de la soude, exactement, il y a de la soude. Mais ce n'est pas quelque chose dont on se rend compte tout de suite, quoi.
Et du coup, est apparu donc un nouveau mouvement, alors venu des États-Unis, hein, comme souvent, le mouvement nappy. C'est quoi ?
Le mouvement nappy, c'est le mouvement du retour des cheveux au naturel. Et c'est-à-dire des cheveux qui ne sont pas défrisés. C'est un mouvement où on s'accepte. On accepte ses cheveux tels qu'ils sont. On accepte qu'ils ne sont pas lisses. On accepte qu'on est belle avec ces cheveux-là. On accepte qu'on a été créé avec ces cheveux-là. Donc voilà, le mouvement nappy, c'est un mouvement où on accepte la texture telle qu'elle est.
Mais il y avait déjà eu effectivement une première, alors je ne sais pas si on peut parler d'ébauche, mais enfin, dans les années 60, avec les Black Panthers, exactement. Angela Davis et la coupe afro.
Exactement. Dans les années 60, c'est quand même plus radical, c'est plus politique. Et le mouvement Nappy, il s'inspire de ce mouvement, mais ce n'est pas un mouvement aussi politique. C'est un mouvement où, d'estime de soi plutôt. Et c'est un regain, en fait, le mouvement Nappy. Ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau dans le message, mais c'est un regain, effectivement, des années 60, où déjà on disait « je me trouve belle telle que je suis, mes cheveux sont comme ça, vous n'avez qu'à accepter, vous n'avez pas le choix ». Et voilà, c'est ça aussi le mouvement Nappy, oui.
Rachel Quarting, donc votre série documentaire « Cheveux afro, l'histoire d'une couronne innée », vous avez rencontré différentes femmes, mais notamment aussi une entrepreneuse américaine. Mais toutes celles que vous filmez, en fait, ce sont aussi des pionnières du mouvement en France des entrepreneuses.
Exactement. Il y a eu il y a Clarisse Lieben qui a créé le premier e-commerce pour les produits capillaires afro. Il y a Kelly Massol, qu'on connaît bien, qui a créé Les Secrets de Loli, qui est la première marque française pour les cheveux afro. Et il y a Aline Tacit, qui a créé le premier salon. Enfin, voilà, il y a différentes pionnières, effectivement. Parce que, comme vous disiez, c'est un mouvement qui s'inspire des États-Unis. Mais il y a aussi un mouvement en France. Et ça, je pense que c'est bien de le rappeler, qu'il y a un mouvement en France, qu'il y a eu des femmes qui ont fait des premières choses, des premières marques, des premiers salons, des livres aussi. Il y a eu Juliette Smeralda qui a fait un livre sur Peau noire, cheveux crépus, qui est l'une des seules à écrire sur ce sujet-là. Et voilà, des entrepreneurs aussi, donc oui, comme Kelly Massol, qui a créé la première marque et qui ne fait que grandir, quoi.
Donc c'est une série de 5 épisodes. Vous avez, c'est une série close ou vous avez des idées pour la suite ou une deuxième saison ou aller voir comment ça en Afrique.
C'est ça. En fait, oui, si tu veux à fond, on peut faire encore, je pense, plusieurs saisons. Il n'y avait pas d'hommes dans mon documentaire, donc cheveux afro, ça peut être les hommes. Il y a en Afrique exactement aussi pareil. Donc je pense que oui, ça peut aller encore.
Il y a matière. Oui. Merci beaucoup, Rachel Quarting. Cheveux afro, l'histoire d'une couronne innée. C'est une série de 5 épisodes à voir et à revoir sur la plateforme TV5 Monde Plus.
C'est ça.
C'est ainsi que s'achèvent tous les cinémas du monde. Au micro, Sophie Torlotin. À la réalisation, Apolline Verlon. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de Pascal Bonitzer pour parler de son nouveau film, Le Tableau Volé. D'ici là, bonne semaine à tous.